franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, que penser des nouvelles applications smartphone pour aider à maigrir, avec Sylvain Duval et Nicolas Sahuc.
Ça, c'est les nouveaux problèmes qu'on va avoir, ça. C'est avec toutes ces applications connectées qui vous disent comment faire, qui vous contrôlent, comme dans le sport, on vous mesure la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que vous ne faites plus en fonction du ressenti du corps, de l'interprétation de votre sensation de faim, vous êtes en fonction de ce que la machine va vous dire ou de ce qu'elle va vous autoriser. C'est très, très marquant, ce qu'il vient de dire.
C'est compliqué d'écouter la sensation de faim aussi, parce que dans ce cas-là, on peut se laisser aller à manger inconsidérablement.
Alors. Oui, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans l'attention à la faim. C'est ça qui est très compliqué lorsque je dis aux patients qu'on est toujours dans une séparation du corps et dans une séparation du poids, ce qui n'a strictement rien à voir. La faim, c'est quelque chose qui fait effraction dans votre estomac. Vous voyez, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu, de la surprise. Je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir faim. Une seconde auparavant, je n'ai pas faim. La seconde après, pim, c'est là. C'est là, dans le ventre, ça me tire, ça gargouille. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant, c'est d'ajuster ma prise alimentaire en termes de quantité. Parce que lorsque vous avez la porte d'entrée qui est la faim, vous avez la porte de sortie qui s'appelle le rassasiement. Et là, je vais pouvoir m'ajuster sur des sensations. Mais le problème, manger à la sensation n'est pas une condition suffisante pour manger sur le plan du besoin. Il ne faut pas confondre sensation et besoin. Le besoin est expliqué par la science et par la nutrition. La sensation est expliquée par l'interprétation de ce que je ressens dans le corps. Et l'un ne doit pas s'exclure, ils doivent même se surveiller. Exemple simple, le matin, la nutrition me dit qu'il est nécessaire de manger 25% d'énergie pour être stable. Pour autant, moi, je peux ne pas avoir de sensation de faim. Donc, on essaye de faire surveiller les deux pour que l'individu puisse retrouver une forme d'autonomie vis-à-vis de sa nourriture et non pas de dépendance vis-à-vis d'une technique qui n'est que du régime. C'est pour ça que c'est plus l'application du régime qui est problématique.
Sylvain Duval, sur les propos de Nicolas Sahuc, est-ce que les études scientifiques rejoignent un petit peu ce qu'il nous dit là ?
Ce que j'essaie de bien expliquer aux personnes, en fait, c'est que ce soit un coach, que ce soit une application ou que ce soit un livre, des choses extérieures comme ça à la personne qui vont lui dicter sa vie ne peuvent qu'échouer ou ne peuvent en tout cas que faire glisser, emmener sur une pente glissante.
Mardi, question sur la mémoire posée par les élèves de 4e du collège Saint-Exupéry à Paris et réponse de Francis Eustache.
Je voulais demander...
Quel est ton prénom ?
Daisy.
Bonjour Daisy.
Je voulais demander, est-ce qu'il serait possible de dire combien à peu près de différents types de mémoire il y a ? Parce que vous disiez qu'il y a des types de mémoire.
Alors, il y en a 256.
Ah, c'est aussi précis que ça ?
C'est un peu une plaisanterie, mais c'est un grand chercheur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Endel Tölving. On lui posait toujours cette question-là, mais combien il y a de... Et donc, il a dit il y en a 256, d'accord, parce que dans les livres, j'en ai trouvé 256. Ouais. Plus sérieusement, on peut dire qu'il y a 5 systèmes de mémoire, c'est plus facile quand même à décrire. Donc, il y a la mémoire de travail, qui est la mémoire un petit peu à court terme, si on peut dire. Et puis autrement, il y a des mémoires qu'on a déjà citées, la mémoire procédurale. Donc c'est la mémoire des habitudes, la mémoire perceptive, c'est simplement les images ou les sons que l'on retient. Et puis ensuite, il y a deux mémoires qui sont très importantes, c'est la mémoire sémantique, c'est les connaissances générales, la mémoire des connaissances générales, donc ça pour l'école c'est très important. Et puis la mémoire épisodique, qui est cette fois-ci notre mémoire personnelle, notre mémoire des souvenirs. Voilà.
Bon, c'est plus facile à retenir que les 256, effectivement. Ton voisin de droite, Daisy, a une question également.
Bonjour.
Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Alexandre et ma mère m'a dit que si je répète 7 fois un mot compliqué, je le connaîtrai par cœur. Est-ce que c'est vrai ?
Est-ce que tu l'as testé ?
Je l'ai essayé, ça a marché pendant 3 semaines, puis après j'ai oublié.
Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal.
En fait, il y a deux choses. Il y a la répétition sur le moment, qui est efficace. Et puis après, il y a la réactivation qui doit se faire quelque temps après. Et donc, distribuer cet apprentissage pour pouvoir le retenir. Donc, revoir ce mot régulièrement pour pouvoir finalement le retenir. Alors, 7 fois, c'est peut-être un peu arbitraire, mais la répétition, c'est vrai que c'est essentiel dans les apprentissages.
Tu te souviens de ce mot ou pas ?
C'est la capitale d'un pays, mais je me souviens plus du pays, bon, je me souviens plus du...
Voilà, mais c'était le test de mémoire quelques temps plus tard. Mercredi, comment fonctionne le système CRISPR-Cas9 ? Les explications d'Emmanuel Charpentier.
Comment on résume ça ?
Ouais.
Donc, il y a d'abord le système naturel CRISPR-Cas9. Donc, voilà, nous pouvons être attaqués par des bactéries et du virus, qui sont des pathogènes qui peuvent... causer des maladies et nous avons développé un système immunitaire qui nous permet de nous défendre contre les bactéries et les virus.
Ça, c'est quand tout va bien.
Et les bactéries peuvent aussi être attaquées par leur propre virus, qui sont appelés bactériophages phages, et comme tout organisme, elles ont développé des moyens pour pouvoir se défendre contre les attaques des virus. Ils utilisent en fait plusieurs systèmes, et un système est CRISPR-Cas, qui en fait a été développé en plusieurs mécanismes bactériens, et le CRISPR-Cas système peut reconnaître le génome du virus qui va infecter la bactérie et découper le génome du virus. Mmh. Et la conséquence, c'est que le virus ne va plus pouvoir se répliquer et le virus ne va plus pouvoir tuer la bactérie. Donc c'est la façon dont la bactérie peut résister l'infection par les virus. Mais c'est un des mécanismes, et le mécanisme CRISPR-Cas est un mécanisme très versatile. C'est-à-dire que le système a évolué en différents mécanismes, et CRISPR-Cas9 est le mécanisme le plus minimal de tous les mécanismes CRISPR-Cas qui existent.
Ouais, et ça en fait un avantage ?
Ça en fait un avantage dans son exploitation, en effet.
Ouais, pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce qu'il est très simple, justement, il va directement simple. Droit au but.
Il est très simple, c'est-à-dire que la plupart des mécanismes CRISPR-Cas consistent en un complexe de protéines qui va être guidé par une molécule d'ARN qui contient le code de l'ADN à cibler, et une protéine de ce complexe va cibler l'ADN et le découper. Mmh. Et le système CRISPR-Cas9 est complètement différent, et c'est ce qu'on avait montré dans un papier qui est vraiment le papier fondateur qui a été publié dans Nature en 2011. Ce système comprend deux molécules d'ADN et une protéine. Donc il y a qu'une protéine qui va découper l'ADN et qui est guidée par deux molécules d'ARN qui forment un duplex. Et donc, c'est une exploitation très facile dans le sens où c'est simplement simplifier un système à trois composants en un système à deux composants où il y a une protéine qui va être guidée par une molécule d'ARN qui a le code de l'ADN à cibler, et la protéine va découper l'ADN et ensuite la cellule va faire le reste en tant que technologie.
Jeudi, pour ou contre la vie immortelle, avec Miroslav Radman et Jean-Michel Truong.
J'imagine, je ne suis pas sûr, je n'ai pas des données, mais j'imagine qu'il y a un conflit d'intérêts entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle.
Oui.
Que l'évolution biologique nous fait presque du vandalisme. Au moment où, à 50, 60 ans, on a acquis les connaissances, on a acquis l'art d'acquérir les connaissances.
Oui, et là,
on s'est débarrassé de toutes sortes de responsabilités, les enfants sont partis, etc.
Et c'est le corps qui suit
le plus productif. Oui. Arrive la biologie qui commence à casser ça. Et moi, je trouve ça du vandalisme. J'aimerais bien déplacer cette courbe.
Quel gaspillage.
Voilà, peu à peu, hein, pas d'une façon choquante parce que c'est irréaliste, mais de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, etc. Prendre le temps.
Mais quand même, Ludovic nous demande, est-ce que la Terre peut supporter justement, alors peut-être pas cette immortalité, mais ce prolongement de la vie immortelle, est-ce que c'est pas une contradiction en soi ?
Oui, je me suis posé la question juste avant de venir. Nous sommes, limitons-nous au territoire français. Hein. Nous sommes en gros 70 millions. Chaque année naissent 850 000 personnes en moyenne et meurent environ 500 000. D'accord. Supposons que ces 500 000 d'un seul coup
restent en vie.
Ouais. Combien serions-nous dans 100 ans? Eh bien, dans 100 ans, nous serions environ 250 millions.
Rien qu'en France.
Rien qu'en France. Ouais. Et dans 200 ans, nous serions 680 millions.
Ouais.
Est-ce que le territoire peut supporter une telle pression écologique? Voilà la question. Ouais. Je ne parle même pas de la pression mentale. Quand on voit déjà dans certaines cages d'escalier comment nous avons du mal à nous supporter les uns les autres, ou même dans des lotissements de villas, comment je ne supporte pas le voisin qui est quand même à 40 ou 50 mètres. Alors imaginez que nous soyons 10 fois plus nombreux pour occuper la même superficie.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.